Ottawa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 11 novembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, rencontre entre Alassane Ouattara et Henri Conan Bédier pour tenter de mettre fin aux violences meurtrières. En Centrafrique, 22 prétendants à la présidentielle de décembre ont déposé leur dossier de candidature. Arrestation de 17 officiers éthiopiens accusés de trahison au profit de la région dissidente du Tigré. C'est Veterans Day aux États-Unis, fête fédérale observée le 11 novembre pour honorer les anciens combattants. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. On commence par l'actualité aux États-Unis. Le parti républicain du président Donald Trump a conservé un siège supplémentaire au Sénat avec une victoire en Alaska qui le place à une voix de la majorité à la Chambre haute du Congrès. Selon les projections, les républicains comptent désormais 50 sièges contre 48 sur 100. Les deux autres sièges se joueront dans une double élection partielle le 5 janvier dans l'État conservateur de Géorgie. Ce 11 novembre, les Américains observent la journée des anciens combattants, Veterans Day. À cette occasion, l'administration Trump a annoncé un accès gratuit à vie aux parcs nationaux pour tous les anciens combattants et les familles des soldats tombés pour le pays. Le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence ont pris part à une cérémonie commémorative au cimetière national d'Arlington, près de Washington. Le point avec Jacques Aristide.
La journée des anciens combattants est commémorée chaque année le 11 novembre. Elle remonte à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Cette année, en raison de la pandémie du coronavirus, de nombreux événements ont été annulés et d'autres réduits ou sont passés en mode virtuel. La cérémonie commémorative au cimetière national d'Arlington a été maintenue mais sans public avec un hommage aux militaires américains tués au combat dont les restes n'ont pas été identifiés. La semaine dernière, le président Donald Trump a proclamé novembre le mois national des anciens combattants et des familles de militaires. Son secrétaire à l'intérieur, David Bernhardt, affirme que l'administration Trump s'est engagée à honorer les patriotes américains, les hommes et les femmes qui ont servi dans les forces armées du pays. Les anciens combattants et les familles des soldats tombés pour les États-Unis vont ainsi avoir un accès gratuit à vie aux parcs nationaux du pays. Les commémorations ont également lieu après une campagne électorale âprement disputée avec de minces marges dans des états clés qui ont mis en évidence à quel point le pays est politiquement divisé.
Toujours ici aux États-Unis, des législateurs démocrates s'inquiètent de la décision de l'administration Trump d'expulser un groupe de demandeurs d'asile originaires du Cameroun et d'autres pays africains. Le point avec Lionel Gaïma.
Dans un communiqué conjoint publié mardi, la députée Karen Bass de Californie, présidente de la sous-commission Afrique de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, ses collègues Benny Thompson du Mississippi, Sheila Jackson et Jody Shue du Texas, ainsi que Jamie Raskins du Maryland, s'inquiètent du sort des demandeurs d'asile qui auraient été forcés par l'Agence américaine de l'immigration à signer des ordres de rapatriement volontaires. Beaucoup feront face à un risque imminent de mort à leur arrivée, estiment les députés démocrates qui ont appelé le gouvernement américain à surseoir à l'ordre d'expulsion jusqu'à ce que les dossiers d'expulsion soient passés en revue par une nouvelle administration. Toute autre chose serait scandaleuse et inacceptable, ont souligné les législateurs démocrates, ajoutant que les États-Unis doivent respecter leurs engagements internationaux des réfugiés et des demandeurs d'asile. Selon les médias camerounais, 36 Camerounais sont concernés par la mesure d'expulsion. L'agence américaine a fait savoir que sa politique est de ne pas commenter les expulsions avant qu'elles n'aient eu lieu.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président ivoirien Alassane Ouattara et son principal opposant, l'ex-président Henri Konan Bédier, se sont rencontrés ce mercredi à Abidjan afin d'apaiser les violences électorales meurtrières. C'était une première rencontre pour briser la glace et rétablir la confiance, a déclaré M. Ouattara au terme de l'entrevue. Nous avons pu briser le mur de glace et le mur de silence, a renchéri M. Bédier lors d'un point de presse commun. Les deux hommes promettent d'autres rencontres à venir. La justice et la police guinéenne ont lancé une vaste opération d'arrestation et d'interrogatoire parmi les opposants d'Alpha Condé et ceux qui auraient pris part, selon elle, aux violences électorales. La justice invoque notamment des menaces et la participation à des assassinats. L'opposition dénonce le travail d'une justice qu'elle estime aux ordres du président. Les juges ont écroué, entendu ou ouvert un procès contre 137 personnes, indiquait le procureur de Dixine, Sidi Souleymane Diagne. En Centrafrique, 22 prétendants à la présidentielle du 27 décembre ont déposé leur candidature, a annoncé l'Agence nationale des élections qui a clôturé la période de dépôt des dossiers. Le point avec Michel Joseph.
Parmi les candidats déclarés figurent notamment le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, élu en 2016 et qui brigue un second mandat, ainsi que son principal opposant, l'ancien président Bozizé, revenu en Centrafrique en décembre 2019 après 7 années d'exil. D'autres ténors de la vie politique centrafricaine comme Anicette Georges Dologuélé, Martin Zigélé, Karim Mekassoua, Nicolas Tiangaï et Catherine Samba-Panza, présidente de transition entre 2014 et 2016, ont également déposé leur dossier. Parmi les 22 candidats figurent aussi les héritiers d'anciens chefs de l'État, à l'instar de Jean-Serge Bokassa, fils de l'empereur Jean-Bédel Bokassa, de 1966 à 1979, et Désiré Kolingba, fils de l'ancien président André Kolingba, ou encore Sylvain Patassé, fils de son successeur Ange-Félix Patassé. Le scrutin de décembre se déroulera dans un pays contrôlé aux deux tiers par les groupes armés et ravagé par la guerre civile depuis qu'une coalition de rebelles à dominante musulmane, la Séléka, a renversé le régime de François Bozizé en 2013. Quelle qu'en soit l'issue, le scrutin de décembre annonce peu de renouvellement de la classe politique. Les principaux candidats ont tous exercé des responsabilités importantes dans les divers gouvernements qui se sont succédés dans ce pays, miné par la corruption et le népotisme, jusqu'à la guerre civile de 2013. Monsieur Touadéra fait pour l'instant figure de favori face à une opposition divisée.
17 officiers éthiopiens ont été arrêtés pour trahison au profit des forces de la région dissidente du Tigré, contre laquelle le gouvernement fédéral a lancé une opération militaire. Bagassi Koura nous en dit plus.
La radio-télévision Fana BC cite la police, mais cette dernière ne lie pas explicitement ces arrestations aux attaques que le gouvernement fédéral accuse les forces du TPLF, le Front de libération des peuples du Tigré, parti au pouvoir au Tigré, d'avoir mené contre deux bases du commandement nord de l'armée dans la région pour justifier son intervention militaire. La police indique toutefois que ces militaires sont accusés d'avoir coupé des réseaux de communication entre le commandement nord et le commandement central de l'armée, un acte de trahison selon Fana BC. Ils ont rejoint le complot du TPLF en exposant les forces armées fédérales à une attaque, poursuit la police. Selon Fana BC, l'un des officiers arrêtés, le général Gebremedine Fekadou, chef du département des communications des forces armées éthiopiennes, pris en flagrant délit alors qu'il tentait d'envoyer au TPLF 11 boîtes chargées d'explosifs et de composants de projectiles, selon les mots de Fana BC. Le TPLF, tout puissant durant les presque 30 ans qu'il passa aux commandes des institutions publiques et sécuritaires en Éthiopie, défie depuis plusieurs mois l'autorité du gouvernement fédéral.
Des millions d'enfants, notamment au Nigeria, risquent de ne pas être vaccinés contre la polio et la rougeole à cause du coronavirus, ont alerté l'UNICEF et l'OMS. Les lacunes de la couverture vaccinale ont été exacerbées par la COVID-19, selon ces agences onusiennes, appelant à une action urgente sur ces maladies mortelles qui menacent la vie de nombreux enfants dans les régions les plus pauvres du monde. La mission des Nations Unies en Libye a condamné l'assassinat de l'avocate et militante des droits humains Anan al-Barassi, appelant à ce que les auteurs soient rapidement traduits en justice. Anan al-Barassi a été abattu mardi à Benghazi par des hommes armés, indique un communiqué de la Manoul. Madame al-Barassi, 46 ans, défendait des femmes victimes de violences et militait contre la corruption. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Linden.
La plateforme d'e-commerce africaine Jumia a annoncé une baisse de près de 18% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en passant d'un peu plus de 58 millions de dollars en 2019 à 38 millions de dollars actuellement. La firme a recentré sa stratégie sur des articles moins chers. Selon les chiffres du dernier rapport trimestriel, le bénéfice brut de Jumia après frais d'exécution a atteint 7 millions de dollars contre une perte de 2 millions de dollars au troisième trimestre de 2019. Seulement 10% des adultes disposent d'un compte bancaire au Cameroun. 51% des personnes de plus de 15 ans n'ont pas accès ou n'utilisent pas de produits financiers formels. On note également une insuffisance des produits et services financiers adaptés aux besoins des personnes vulnérables. C'est ce qu'indique le quotidien d'État Cameroun Tribune en kiosque ce 11 novembre. Le site cameruninfo.net note que depuis le 10 novembre 2020 à Yaoundé, le gouvernement camerounais et le Programme des Nations Unies pour le développement travaillent en synergie sur l'actualisation de la stratégie nationale pour améliorer l'accès des populations aux services financiers. La start-up fintech nigériane Kuda a clôturé un tour de table de financement de démarrage de 10 millions de dollars afin d'accélérer sa croissance et de répondre à la demande des clients. Avec une licence bancaire de la Banque centrale du Nigeria, Kuda fournit des services bancaires complets via ses applications, permettant aux Nigérians de gérer un compte courant, d'économiser de l'argent et de gagner des intérêts annuels. Kuda traite plus de 500 millions de dollars de transactions par mois.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La fenêtre internationale FIFA s'ouvre aujourd'hui sur le continent avec les matchs de la troisième journée des éliminatoires de la prochaine CAN. À suivre ce soir, Mauritanie-Burundi, Guinée-Tchad, Kenya-Comores, Sénégal-Guinée-Bissau ou encore Libye-Guinée-Équatoriale. Grosse frayeur pour le Lesotho dans sa double confrontation contre le Bénin dans le cadre des éliminatoires de cette CAN. Hier, la Fédération Lesothane a annoncé que 3 de ses joueurs et 2 officiels ont été contrôlés positifs au coronavirus. Le Lesotho est arrivé aujourd'hui à Cotonou pour affronter le Bénin samedi pour le compte de la troisième journée. Selon le protocole de la CAF, toute équipe qui ne pourra pas se déplacer et disputer un match dans ses qualifications pour des cas de coronavirus perdra tout simplement le match 2-0. Après le match à Porto Novo le 14 novembre, les écureuils se rendront à Maseru le 17. En Europe, cette fenêtre internationale s'ouvre avec des matchs amicaux alléchants. Ce soir, en guise d'échauffement avant la dernière ligne droite de la phase de poule de Ligue des Nations, programmée de samedi à mercredi. En amont de ce rendez-vous décisif samedi au Portugal pour une finale de son groupe, la France compte profiter d'un match à sa portée contre la Finlande ce soir à Saint-Denis pour se roder. Le choc de la soirée oppose les Pays-Bas de Frank de Bauer et l'Espagne de Luis Enrique, un duel aux accents catalans, puisque les deux sélectionneurs ont joué ensemble pas moins de 122 matchs sous le maillot du FC Barcelone. Avant ces deux rencontres, la Croatie se déplace en Turquie, l'Allemagne reçoit la République tchèque. Au même moment, l'Italie cherchera à gagner en constance face à l'Estonie avant d'affronter la Pologne, leader de son groupe de Ligue des Nations samedi. Enfin, la Belgique reçoit la Suisse. Toujours en Europe, Andy Cole, ancienne gloire de Manchester United, a exhorté la fédération anglaise à prendre au sérieux la question de la diversité alors que s'ouvre la succession de l'ancien président Greg Clark, contraint à la démission mardi après des propos racistes. Les instances dirigeantes parlent de diversité depuis un certain temps. Maintenant qu'elles sont en mesure de voir comment elles peuvent avancer à la Fédération anglaise de football, qu'est-ce qu'elles sont prêtes à faire à ce sujet, s'est interrogé l'ancien international anglais aux 121 buts en 275 apparitions sous le maillot des Red Devils. La démission de Greg Clark est intervenue après qu'il a employé des expressions à caractère raciste lundi au cours d'une audition par le comité du numérique, de la culture, des médias et du sport de la Chambre des communes sur l'avenir du football anglais, tel que « Color People », que l'on peut traduire par « personne de couleur jugée raciste en anglais ».
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Le président élu américain Joe Biden, selon les projections, a rejeté le refus de l'administration Trump d'entamer le processus de transition officielle, alors même que les principaux dirigeants du Parti républicain se sont rangés du côté du président Donald Trump dans ses efforts visant à annuler la victoire projetée de Joe Biden à la présidentielle. Un reportage de Patsy Widakuswara, correspondante de La Voix de l'Amérique à la Maison Blanche. Le récit est de Dilly Dico.
Je voulais vraiment vous féliciter, vous et Kamala Harris, pour cette élection.
Je félicite vraiment le président élu Biden et Kamala Harris.
Plusieurs dirigeants mondiaux, dont le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Boris Johnson, ont félicité Joe Biden pour sa victoire projetée. Mais au niveau national, c'est une autre histoire. Écoutons le secrétaire d'État Mike Pompeo.
Il y aura une transition en douceur vers un deuxième mandat de Trump.
Le premier diplomate des États-Unis a donc refusé d'accepter le résultat des élections, répétant l'appel du président Donald Trump à ne compter que les votes légaux, un terme utilisé pour faire avancer les allégations, jusqu'ici sans fondement, selon lesquelles les démocrates auraient triché lors de l'élection. Joe Biden rejette catégoriquement ces allégations.
Il n'y a aucune preuve d'aucune des affirmations faites par le président ou le secrétaire d'État Pompeo. Le secrétaire d'État Pompeo.
Mardi, Biden a qualifié le refus de Trump de reconnaître sa défaite d'embarras, mais il s'est montré optimiste.
Le fait qu'il ne soit pas disposé à reconnaître que nous avons gagné à ce stade n'a pas beaucoup d'importance dans notre planification et ce que nous pouvons faire d'ici le 20 janvier.
Seuls quelques sénateurs républicains ont félicité Biden et sa colistière Kamala Harris, ainsi que George W. Bush, le dernier président républicain. Mais les leaders républicains se rangent du côté de Trump. Mitch McConnell est le leader de la majorité au Sénat.
Le président Trump est à 100% dans son droit d'examiner les allégations d'irrégularité et de peser ses options juridiques.
La plupart des républicains reconnaissent en privé que Biden sera le prochain président, mais ils ne veulent pas défier Trump, selon le stratège républicain Rob Stutzman.
Le calcul politique que vous ne voulez pas vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de Donald Trump, qui pourrait en un seul tweet faire de fermer sur vous la colère d'à peu près la moitié du Parti républicain. Personne ne veut de ce casse-tête.
Les constructions pour l'investiture du 20 janvier ont déjà commencé, mais le processus de transition formelle ne commence que lorsque la personne nommée par Trump à la tête de l'administration fédérale des services généraux annonce la transition. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Sans la coopération de l'administration sortante, les décennies d'expérience politique de l'ancien vice-président Biden seront essentielles, selon Barbara Perry de l'Université de Virginie.
Il connaît très bien la Maison-Blanche et la bureaucratie de l'exécutif et son fonctionnement. Il va donc mettre en place une équipe de transition comprenant des professionnels expérimentés de Washington.
Mardi, l'équipe de Biden a publié la liste des personnes qui examineront chaque agence gouvernementale pour assurer un transfert de pouvoir en douceur.
Des dizaines de demandeurs d'asile camerounais sont sur le point d'être rapatriés des États-Unis vers le Cameroun. Le mois dernier, une cinquantaine d'autres avaient regagné de force leur pays d'origine, suscitant l'indignation de certains parlementaires américains. Mohamedou Oumfa a joint à Yaoundé Hilaire Kamga, juriste expert en droits humains.
Les gens qui sont allés aux États-Unis, pour la plupart, peut-être parce que leur vie était menacée du fait de ces deux crises que traverse le Cameroun, et qu'ils trouvent refuge dans un État qui, par définition, était un État de droit, qui protège les droits de l'homme, lorsqu'ils sont rapatriés, ça ne peut pour susciter que des inquiétudes. C'est ensuite autant plus compréhensible pour les parlementaires américains qui s'insurgent, pour la simple raison que l'image que renvoie les États-Unis à travers ces rapatriements ne colle pas avec l'idée qu'on se fait des États-Unis qui est une terre des libertés, une terre des droits de l'homme. On ne peut pas comprendre que les États-Unis, tout en étant partie à un certain nombre de textes internationaux, acceptent de rapatrier des gens qui vont retrouver des régions dans lesquelles ils sont menacés. En tout état de cause, ces personnes sont des personnes qui ont des risques en se retrouvant au Cameroun, surtout en cette période particulière où le Cameroun, la crise n'a pas connu une atténuation et où on est en train de vivre une crise humanitaire mondiale de la pandémie COVID-19.
On en parle très peu au Cameroun, c'est quand même une cinquantaine de personnes le mois dernier, des dizaines d'autres, ça va faire près d'une centaine de personnes. On en parle très peu au Cameroun, qu'est-ce qui peut expliquer ce blackout, ce silence?
Mais le problème, on ne peut, la simple instruction, des autorités policières camerounaises ne saurait justifier un tel blackout, me semble-t-il. Parce que l'argument qui est brandi, selon lequel les forces de sécurité auraient dressé une ceinture non accessible autour de ces personnes-là, est à mon sens très insuffisant pour justifier ce climat de silence qu'on observe. Parce que nous autres serions attendus à ce que même les familles des concernés essayent de communiquer de nature à pouvoir montrer ou pointer la gravité de la situation. On sait très bien que le gouvernement, par exemple, de Yaoundé, estime que le sol américain est un territoire à partir duquel des gens se sont réfugiés pour structurer leur lutte contre le régime de Yaoundé dans les zones anglophones. Pour cette raison simplement, il lui était indiqué pour les États-Unis de ne pas surtout rapatrier en ce moment et de montrer leurs bonnes intentions par rapport à leur prédisposition à aider le Cameroun à gérer cette crise qui fait de plus en plus de morts.
Justement, en tant que défenseur des droits de l'homme, quels conseils donnez-vous à ces personnes rapatriées ainsi qu'aux membres de leur famille?
Mais le premier conseil, c'est de dire que, à la réalité, la meilleure protection de leurs droits, c'est la communication sur leur situation. Si eux-mêmes font un blackout sur leur situation, ils courent des risques plus graves. Alors, ils doivent se rapprocher des organisations de droits de l'homme pour qu'une stratégie globale de protection de leurs droits ou alors de défense de leurs droits soit mise en place. En même temps, ils doivent savoir qu'ils ont intérêt à ce que les médias se saisissent l'affaire, pas seulement pour ce qui est du Cameroun, mais aussi pour ceux qu'ils ont laissés de l'autre côté aux États-Unis.
Le juriste Hilaire Kamga était joint à Yaoundé au Cameroun.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le gouvernement provincial du Nord Kivu a lancé une opération de récupération d'armes et d'effets militaires détenus illégalement par les civils dans la région de Goma. Au premier jour de cette opération dénommée « Armes contre 100 dollars », une dizaine d'équipements ont été rendus. Un reportage de notre correspondant à Goma, Charlie Kazereka.
La campagne a été lancée ce mercredi. Ces premiers jours, quelques équipements militaires ont été récupérés, à savoir une arme AK-47, des bombes, 7 chargeurs bien garnis et une tenue militaire. Tout ceci amené par des civils, chacun avec sa motivation. Témoignage sous anonymat de cette femme qui vient juste de remettre aux autorités un chargeur garni qui appartenait à son mari, parti depuis.
Je me sens libre et soulagé après la remise de ces chargeurs. Il y a encore une tenue et des bottines.
Didier Mwamba, lui, gardait son arme pour se venger de ceux qui avaient assassiné son père. Il a pardonné aujourd'hui et veut la paix. Il vient de rendre ici une grenade du type chinois.
Je pouvais faire du mal avec cette grenade. Je la gardais pour assassiner aussi la famille de ceux-là qui avaient tué mon père. Mais juste après la sensibilisation, je viens de la remettre. Je me suis dit, il est temps de pardonner.
L'initiative est du député national Patrick Mugnomo qui remettait entre 50 et 200 dollars américains en contrepartie pour toute arme et effet récupéré. Une campagne qui prendra plusieurs mois selon lui. Patrick Mugnomo.
Cette campagne de ramassage d'armes n'est pas une
mission personnelle, c'est une idée venue de toute la population du Nord Kivu. C'est le grand moment à toute personne qui détient l'arme illégalement de les remettre. Il n'y aura pas de gens qu'on va inquiéter. Non, c'est le moment de les remettre et vous partez comme vous venez vous-même d'observer. Il y a des personnes qui détenaient ça et ils viennent de remettre et on vient de les encourager.
L'opération est saluée par plusieurs notables de Goma. Le gouverneur Karlin Nzanzukasivita estime que cette action contribuera à réduire le taux de criminalité, encourageant ainsi les détenteurs illégaux de venir remettre leurs armes sans crainte. Le gouverneur Karlin Nzanzu.
Pour nous, autorités, une seule arme récupérée et qui était détenue légalement, c'est une contribution énorme. Même si ça sera une ou deux armes récupérées, ici, c'est une bonne chose.
Les armes récupérées durant cette campagne seront détruites, a expliqué le chef de l'exécutif en province. La ville de Goma, qui a plus d'un million et demi d'habitants, vit une insécurité permanente depuis plusieurs années. Pour une période d'environ 2 mois, plus d'une dizaine de civils ont été tués dans la ville. Ils sont des hommes d'affaires dans les secteurs miniers et fonciers, en plus des cambistes. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com, nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis ont négocié un accord de paix entre le Soudan et Israël. Le troisième accord de ce genre en moins de 3 mois entre Israël et une nation à majorité musulmane. Israël et le Soudan ont accepté de normaliser leurs relations. Les deux pays entameront des négociations sur des accords de coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'économie, du commerce, de l'aviation, des migrations et d'autres domaines d'intérêt mutuel. Cet accord de paix historique fait suite à des accords similaires entre Israël et les Émirats arabes unis et Bahreïn. L'élargissement des accords d'Abraham au Soudan est une étape importante qui permettra au Soudan et à Israël d'améliorer la vie de leur peuple tout en renforçant la sécurité des deux pays. En effet, pendant des décennies, le Soudan était en état de guerre avec Israël et a boycotté les produits israéliens. Après la guerre des Six Jours en 1967, la Ligue arabe s'est réunie à Khartoum où elle a publié ce que l'on a appelé la déclaration des trois noms. Non à la paix, non à la reconnaissance, non aux négociations. Tout cela a changé, ainsi que l'a noté le conseiller principal du président Jared Kushner. Nous avons des trois oui sous le président Trump. Nous avons la paix, nous avons la reconnaissance et nous avons des négociations pour plus de paix encore. Après des décennies de vie sous une dictature islamiste brutale qui soutenait le terrorisme, le peuple soudanais a un nouveau gouvernement avec de nouvelles politiques, a déclaré le président Trump. Le gouvernement soudanais de transition a démontré son engagement à combattre le terrorisme, à créer une économie de marché et à développer l'institution démocratique qu'il est en train de devenir. L'accord d'aujourd'hui s'appuie sur ces engagements et marque un tournant décisif dans l'histoire du Soudan. Les États-Unis se félicitent de cet important progrès et se tiennent prêts à soutenir le peuple soudanais dans ses efforts pour bâtir un avenir meilleur pour lui-même et les générations futures, Grâce aux trois nouveaux accords de paix, le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent une transformation géopolitique importante. À mesure que de plus en plus de pays normalisent leurs relations avec Israël, la région deviendra plus stable, plus sûre et plus prospère. Les États-Unis continueront d'être aux côtés des habitants de la région alors qu'ils s'emploient à bâtir un avenir plus radieux et plus prometteur.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.